Eh bien, bonsoir, chers amis, auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce libre journal de la Résistance française. Je remercie tout de suite à la technique pour la réalisation de cette émission, Aline. Merci d'avance, Aline, pour cette réalisation. Vous pouvez, chers auditeurs, eh bien, pour nos invités, comme pour nous-mêmes d'ailleurs, Lara et moi-même, déjà, d'ailleurs, bonjour Lara, bienvenue.
Bonsoir Nicolas, bonsoir chers auditeurs.
Voilà, Lara qui m'assistera, qui fait plus que m'assister, qui participe pleinement et co-dirige ces libres journaux.
Quelle promotion.
Oh, oui, enfin, vous êtes vous-même patronne d'émission. Il fut un temps où vous faisiez, je crois, des libres journaux de la relève.
Exactement.
Je crois que malheureusement la tradition s'est perdue et nous, on a perdu surtout notre temps, le temps.
On n'a pas perdu, on n'a plus de temps.
Et voilà.
Il est passé. Mais on ne le perd pas. Hein.
Ce temps est consacré à d'autres activités.
Des activités journalistiques d'ailleurs.
En général, oui, tout à fait. Oui. Oui, mais pas en général, totalement. Donc, chers auditeurs, vous pouvez poser questions, remarques, observations au standard de Radio Courtoisie. Donc déjà, n'hésitez pas à appeler, je suis content, il y a quelqu'un en ce mercredi soir au standard de la radio. Et puis, de toute façon, le plus simple, on nous le transmettra soit directement, puisque nous sommes dans le studio, soit je le regarderai sur mes propres courriels électroniques. Donc vous pouvez nous envoyer courriel électronique avec tout ce que vous avez envie comment vous avez envie de réagir finalement à cette émission, une émission qui à mon avis vous fera beaucoup réagir puisqu'il va être question d'un thème, d'un sujet sur la profanation de nos églises qui à mon avis va vous faire énormément réagir. Est-ce que l'on peut arrêter ce sacrilège, ces profanations? Nous allons revenir avec notre invité principal puis d'autres invités en deuxième partie des mission sur à la fois les vitraux de Notre-Dame de Paris. On va y revenir. On avait déjà fait consacrer une partie de l'émission d'il y a deux semaines avec Paul Cadence, le philosophe, à ce sujet. Et Lara était présente. Mais à la demande express de Lara, eh bien, nous allons en reparler un petit peu. Elle était un peu frustrée la dernière fois. Elle avait trouvé qu'on n'avait pas été suffisamment loin dans la dénonciation de ce qui se prépare, de ce qui se prépare probablement en décembre. Ce sera en décembre au moment, je crois, de je ne sais pas si c'est pas pour la fête de l'Immaculée Conception. Je vous donnerai la date exacte où devraient être posés les nouveaux vitraux de Claire Tabouret. Claire Tabouret, qui est une artiste occultiste, certains n'hésitent pas même à dire sataniste, et qui s'est vue confier le remplacement de Grisaille de Viollet-le-Duc, qui était pourtant qui avait échappé miraculeusement au feu de Notre-Dame de Paris. Mais le couple Macron, le couple Emmanuel et Brigitte, Brigitte en particulier, souhaitait absolument changer ses vitraux contre l'avis de l'ensemble des experts, des spécialistes du patrimoine, qui eux souhaitaient qu'on n'y touche pas. Mais le fait du prince et de la princesse, je ne sais pas comment il faut l'appeler, notre premier drame de France, qui souhaitait absolument ces modifications et dont on va reparler avec Lara et notre invité principal ce soir. Et puis après, nous irons sur le second sujet de cette émission, c'est-à-dire Nuit Blanche. Hein, Nuit Blanche, on rappelle Philippe Muret qui, suite au coup de couteau qu'avait eu à subir Delanoë, qui est le Delanoë, hein, Bertrand Delanoë, dont c'est aujourd'hui celui qui était son petit protégé, j'irai pas plus loin comme le font certaines mauvaises langues, hein, c'est Emmanuel Grégoire, le petit protégé de Bertrand Delanoë. Et donc Bertrand Delanoë a pris un coup de couteau, c'est lui qui est à l'origine de ces Nuits Blanches, ce qui avait fait signer le lendemain dans une tribune à Philippe Muret, parti trop tôt, le regretté Philippe Muret, Nuit Blanche gravement à la santé. quand même, elle est bonne. Et voilà, donc on va parler du 6-6 2026. Bah, ça ne s'invente pas.
Non.
Des 6-6-6 pour ce 6 juin, des nuits blanches où l'on va joyeusement profaner église, chapelle parisienne, puisque la mairie de Paris eh bien, a confié à la terrible, terrible, on va en reparler, Barbara Butch, celle qui s'était déjà distinguée lors de la cérémonie d'ouverture des JO en incarnant une espèce de Christ absolument abominable, tout comme la cérémonie qui était elle-même une offense au beau, une offense à la décence, à la dignité. Et donc, c'est elle
le fameux tableau de la scène.
Voilà, le fameux tableau.
Avec l'auréole, une espèce de petite couronne posée sur cette
donc
espèce
cette
chose énorme.
Cette énorme femme, avec autour d'elle des femmes à barbe, sorte de travestis en tout genre. Et ils avaient eu le culot de le représenter comme avec une espèce de schtroumpf bleu qu'il s'apprêtait à dévorer. Ce sont des... cannibalisme, dans cette cérémonie tout à fait hideuse. Et on s'en souvient encore. Ça sera donc le second sujet, les nuits blanches parisiennes du samedi. C'est le samedi qui vient. Alors comment faire pour eh bien, l'empêcher, ou en tout cas s'y opposer, et comment alerter entre le diocèse et l'archevêché de Paris, qui semble-t-il, non seulement n'y est pas hostile, mais même prête un concours avéré à ce genre de cérémonie et de célébration. Et puis, dernier sujet, on reviendra, je vous en ai parlé vendredi dernier dans le Florilège des Arts, avec Florent Delaporte ainsi qu'une responsable nationale des parents vigilants, sur un véritable scandale aussi en cours qui se déroulera aussi le 6 juin, une gay pride qui s'organise
de la fierté
dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France, à Saint-Quentin. Devant, ils n'ont rien trouvé de mieux pour faire cette horrible parade avec des drag queens, en veux-tu, en voilà. Eh bien, devant le parvis et le square de la basilique. Saint-Quentin, le malheureux Saint-Quentin, qui n'a pas suffisamment été persécuté par les Romains en son temps et qu'on continue à persécuter aujourd'hui de la plus vilaine des façons. Voilà, ça sera ces trois sujets que nous abordons. Donc moi, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais tout de suite saluer notre invité principal avant, Lara, de vous donner la parole. Donc notre invité principal, vous le connaissez bien sur Radio Courtoisie. Nous l'apprécions particulièrement.
Nous l'adorons.
Vraiment, il est plébiscité. C'est le président de Civitas International.
Alain Escada.
Alain Escada, bonjour mon cher Alain.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Lara, merci de m'inviter, merci pour cette entrée en matière si élogieuse.
Bah écoutez, on ne vous quittera pas parce que demain matin, eh bien, nous vous retrouverons encore, cette fois-ci dans la matinale de GPTV, où vous partagerez d'ailleurs l'antenne, entre autres, avec un certain Fabrice Sorlin, qui montre le contre-exemple absolu de ce dont
Russie,
on va parler,
voilà,
qui a été honoré avec son épouse du titre...
Mère héroïne.
Voilà, mère héroïne, Vladimir Poutine.
Qui les a reçus.
Les a reçus au Kremlin, c'était absolument...
Il a remis cette distinction, qu'il a passé une heure et demie avec toute la famille.
Voilà, une grande famille. Ça,
c'est... Et en fait, c'est un miroir inversé. Quand on voit ce qui se passe en Russie, et effectivement, à ce moment-là, nous avons deux événements notables, parce que je ne sais pas, Alain, qu'est-ce que vous en pensez, mais quand Dace Owens, cette influenceuse catholique américaine, se rend à Moscou et elle est éblouie par la beauté, la propreté, la chrétienté de cette Russie, elle dit effectivement, ils sont tous en panique quand ils voient que les gens comme moi qui ont une audience se déplacent, parce que ce n'est absolument pas à ça que je m'attendais.
Je partage son point de vue. J'ai été en voyage de noces à Moscou et à Saint-Pétersbourg au mois d'août de l'année dernière, et je peux confirmer effectivement que c'est un pays vraiment imprégné de christianisme. C'est un pays qui a traversé 8 décennies de communisme pour en sortir particulièrement en forme, je dirais, grâce à cette présidence de Vladimir Poutine qui a permis de reprendre les rênes du pays, de relancer l'économie, et d'en d'en revivifier la spiritualité, les valeurs traditionnelles. Et j'ai effectivement suivi la cérémonie de remise de la médaille de mère héroïque à Madame Sorlin. Et ça m'a frappé d'entendre Vladimir Poutine défendre les valeurs traditionnelles familiales. Et on voit bien effectivement, comme vous dites, ce miroir inversé. C'est un président de la Russie honni par nos médias mainstream et par nos dirigeants politiques européens, mais c'est un gouvernant qui, lui, défend les valeurs familiales traditionnelles, et à l'inverse, nous subissons des gouvernants qui promeuvent la déliquescence des mœurs, le LGBTisme, le wokisme, mais aussi le blasphème, le sacrilège, le satanisme, il faut bien le dire, avec effectivement à la fois la transformation des vitraux de Notre-Dame de Paris, avec le programme de nuit blanche dans les églises confié à une militante LGBT blasphématrice. Ben évidemment, voilà, on est vraiment aux antipodes entre cette Europe complètement dégénérée en cause de nos gouvernants, et la France en est malheureusement une illustration particulièrement à l'avant-garde. Il faut bien dire qu'au sein de l'Union européenne, la France joue vraiment le rôle de pays le plus déliquescent, me semble-t-il. Et puis à l'inverse, effectivement, cette Russie qui aujourd'hui, sans en faire le modèle parfait, en tout cas incarne un pays où il fait encore bon vivre les valeurs traditionnelles, où une famille peut s'installer et vivre sainement sans craindre de devoir assister à des défilés arc-en-ciel avec des drag queens à chaque coin de rue en ce mois de juin.
Vous avez pu noter que Fabrice Sorlin avait offert à Vladimir Poutine une statuette.
La statuette, statue.
Une statue.
Une statue Notre-Dame de Fatima,
de
une vierge
Notre-Dame
pèlerine.
Une vierge pèlerine, oui, exactement.
Oui, tout à fait, qui a fait à pied, grâce à des pèlerins. Voilà, c'est un voyage
km.
qui a été organisé de Fatima jusqu'à Moscou. 7 ou 8 000 kilomètres faits par des pèlerins à pied, oui, c'est remarquable.
C'est
Et là
vrai.
aussi, ben, voilà, quel pied de nez, hein, encore une fois, hein,
Ouais.
c'est que ce soit un Français catholique traditionnaliste, père de famille nombreuse, qui remette cette statue de Notre-Dame de Fatima à Vladimir Poutine, quand ben, des évêques, eux, se sont bien gardés d'en faire autant.
C'est ça, et on rappelle, même s'il dit bien qu'il n'a pas fui la France, en tout cas il a quitté la France, il est parti en Russie. Fabrice Sorlin, entre autres, l'avait beaucoup scandalisé à l'époque de la Manif pour tous, tout le mouvement LGBTiste, qu'il d'ailleurs l'avait en partie, il s'était fait persécuter à l'occasion, puisque ces personnes qui prétendent être persécutées sont les premiers des persécuteurs, hein, il faut quand même le
Ah,
savoir.
c'est sûr que c'est pas la tolérance leur premier,
Oh non.
comment dire,
C'est par amour, mais
c'est par
c'est
amour,
l'amour de la famille Manson, hein,
voilà.
c'est je te tue par
Oui,
amour, hein.
bien sûr. Bien sûr. Et puis, c'est cette provocation permanente. Ils ne peuvent pas simplement vivre leurs mœurs chez eux. Non, ils ont besoin, visiblement, de l'assortir de provocations antichrétiennes de plus en plus récurrentes. Et bon, voilà, j'ai vu aussi aujourd'hui l'affiche pour la Gay Pride de Compiègne qui doit se tenir le 13 juin. Bah, ils n'ont pas trouvé mieux que d'y mettre une pauvre sainte Jeanne d'Arc transformée en militante LGBT
Voilà.
brandissant un drapeau transgenre. Ils ne respectent rien. Voilà, c'est vraiment leur marque de fabrique. Ils ne respectent rien.
C'est ça.
Mais je pense, Alain, mais c'est plus que ne pas respecter. D'ailleurs, si on
Mais bien sûr.
regarde à l'origine, ils ne le font pas ce genre de provocation envers l'islam. Ils
Oh,
se
mais bien sûr.
réservent de le
Bien sûr,
faire envers les chrétiens.
ni envers le judaïsme, hein, voilà,
Non, non,
ils
non,
vont pas faire
c'est...
ça ni devant une mosquée, ni devant une synagogue. Hein.
Ah
Bon,
non.
je sais que dans l'émission, on abordera tout à l'heure effectivement la Gay Pride à Saint-Quentin, qui se termine devant la basilique de Saint-Quentin, avec un village LGBT à Saint devant la basilique. C'est quand même impensable. Et évidemment, ben encore une fois, il ne ferait pas cela ni devant une mosquée, ni devant une synagogue. Et de la même façon, on ne voit pas pour la nuit blanche Barbara Butch aller investir une synagogue, non? Ce
Oh,
sont des
sûrement
chapelles
pas.
et des mosquées.
Sûrement
D'ailleurs,
pas.
ce serait mieux pour elle, hein, vu
Barbara,
ses origines.
Bien sûr, Barbara Butch, qui
ce serait plus
d'ailleurs
cohérent, vu ses origines.
défendait la loi Adam. Hein. Elle
Oui,
faisait
en
partie
plus,
de ceux
bien
qui avaient
sûr.
signé la tribune sur la loi Adam.
Bah oui, mais je pense aussi qu'on oublie quelque chose et qu'on passe sous silence un aspect. Moi, je constate que nos médias mainstream, lorsqu'ils parlent de Poutine, c'est toujours l'agent du KGB, donc supposé athée, supposé un bonhomme qui n'a pas de morale chrétienne,
Pourtant, il
etc.
ostente sa médaille de
Or,
baptême,
c'est
Poutine, non?
l'inverse. Voilà, il assiste à tous les offices lors des deux pas de la Pâque, de Noël, etc. Il est debout tout le temps qu'il faut pendant les cérémonies. Et en fait, on cherche à occulter cet aspect-là pour, à mon avis, ne pas réveiller une forme de reconnaissance par chrétienté d'une certaine population française qui pourrait y voir un signe, comme on
Bien
l'a vu
entendu,
à
comme.
travers Fabrice.
Bien sûr, comme il faut rappeler que c'est aussi le seul dirigeant, à ma connaissance, le seul dirigeant politique d'un pays qui plus est de première importance, qui fait régulièrement des retraites spirituelles, qui a un père qui s'occupe de l'assister spirituellement. Tout ça, évidemment, les médias occidentaux se gardent bien d'en parler. Et évidemment, on est très loin, encore une fois, du comportement de nos dirigeants, hein. Le fossé est grand entre un Emmanuel Macron qui, lui, se dandine à l'Élysée avec des rappeurs en barésie qui affichent leur homosexualité autour de lui. Ah, oui, c'est évident, le fossé est énorme, hein, et donc effectivement, dire ne fût-ce que la simple réalité de la façon dont vivent les Russes aujourd'hui, ben, ce serait trop séduisant pour les simples Français de bon sens qui apprendraient que ben, non, ce n'est pas un pays arriéré, mais c'est au contraire un pays où on peut se promener en toute tranquillité, où on ne risque pas, comme après une victoire du Paris Saint-Germain, de devoir être confronté à des hordes de barbares non plus. Hein. J'ai été frappé que, voilà, on peut se promener à Saint-Pétersbourg comme à Moscou à 1 h du matin sans risquer quoi que ce soit. Les rues sont sûres. Les rues sont propres, il n'y a ni graffiti, ni poubelle éventrée, ni la moindre bande urbaine qui rôde pour ennuyer les braves gens.
Alors, en parlant de ceux qui se dandinent en effet à l'Élysée, alors là, c'est en général le 21 juin pour la fête de la musique. On y a vu l'année dernière se dandiner Brigitte avec Rachida.
Oui.
Rachida
Portée
qui est
disparue
portée
depuis.
disparue depuis son
Les
échec
partis
à la
sont
mairie de
opposés.
Paris. De toute façon, je ne pouvais avoir que du bonheur dans cette élection. J'en ai eu deux, le départ d'Anne Hidalgo et la défaite de Rachida Dati. Si j'avais eu en plus
La défaite d'Emmanuel
Oui, ben,
Grégoire.
voilà, et tout le conseil
Oui.
municipal de la ville de Paris à la Seine, parce qu'il paraît qu'elle est propre maintenant. Là, ça aurait été trop de bonheur. Sachez quand même que Rachida Dati, donc prétendument candidate conservatrice à la mairie de Paris, avait honoré, eh bien, et reçu
Barbara Butch.
Barbara Butch,
Tout à fait.
chevalière de l'ordre des arts et des lettres.
Tout à fait.
Je vois que
Rien que
rien
ça.
n'échappe à Alain Escada. C'est absolument incroyable. Voilà. Alors, très bien. Moi, ce que je propose à Lara, c'est peut-être de revenir un moment sur l'histoire des vitraux de la cathédrale
Notre-Dame de
Notre-Dame
Paris.
de Paris.
Oui, moi j'aimerais bien qu'on revienne parce que l'émission d'il y a 2 semaines m'a laissé un léger goût amer lié au fait que c'était un relativisme artistique qui n'était pas vraiment à mon goût parce que je ne pense pas qu'on parle de la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de juger beau ou pas beau, il s'agit de juger, enfin de réfléchir à quelque chose qui d'ailleurs sous nos yeux. On nous cache que ce fut un miracle que ces vitraux aient survécu à l'incendie et que l'Église maintenant se réserve de nommer des miracles, ça aurait dû provoquer au contraire une ferveur incroyable auprès des chrétiens sur le fait que non seulement les reliques ont survécu à cet incendie, que la statue de la Sainte Vierge, elle n'a pas du tout été touchée, elle n'est même pas tombée de son piédestal, et que les vitraux ont survécu. Et que les chrétiens n'aient même plus cette capacité de dire « Attendez, touche pas à mon miracle ». Donc déjà, commençons par ça. Et puis après, remettre entre les mains d'un politique éphémère à l'échelle du destin de la France, il est éphémère, c'est une goutte dans l'océan, Emmanuel Macron, même avec ses deux mandats, même avec ce qu'il a fait auprès de François Hollande. Laisser une trace pareille sur notre héritage chrétien, sur ce qui est nos racines chrétiennes de la France, c'est un désastre. Parce que cet homme-là n'est qu'une goutte dans l'océan par rapport à l'histoire riche de la France. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, et surtout dire aux chrétiens, mais levez-vous, vous avez eu un miracle pendant cet incendie. On ne sait pas, criminel accidentel, on ne nous dira jamais, c'est peut-être dans 50 ans, on saura le fin mot de l'histoire de ce qui s'est passé.
Moi, je veux bien que ce soit accidentel, là, mais je ne vois pas comment.
Mais je ne vois pas comment on peut passer à côté de ces miracles. Et ces miracles-là sont des miracles chrétiens qui doivent être reconnus en tant que tels.
Au bout de 7 ans, je ne connais toujours pas l'accident. Donc, à part un mégot volant, c'est quand même assez incroyable.
Donc, c'est surtout ça. Et puis revenir sur un aspect encore plus lourd de ce que ça va porter comme message, justement, ce remplacement des vitraux par cet artiste occultiste, sataniste, revendiqué, quelqu'un de sombre, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne, l'amour de Dieu, qui se retrouve propulsé comme ça mondialement sur le devant de la scène, adossé à l'histoire des racines chrétiennes de la fille aînée de l'Église. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. C'est ça qui m'offusque. Moi, ce que je sais, c'est que à l'autre bout de l'Europe, il y avait une église qui avait été détruite et qui a été reconstruite entièrement sur les dons privés et qui a été reconstruite plus belle qu'elle ne l'a été avant d'être détruite et profanée par les communistes. Et qu'ici, on a un joyau qui est maltraité et qui les Français en fait ne se réveillent pas. Ça, je ne comprends pas.
Alors, vous allez pouvoir réagir, bien sûr, à tout ça, Alain Escada, et après, je procéderai aux premières questions qui arrivent vite. Vous avez raison, chers auditeurs, dépêchez-vous de poser les questions, comme ça, on aura plus de temps pour y répondre. Alain, déjà, sur ce que vient de dire Lara, sûrement.
Ah, mais premièrement, effectivement, Lara a tout à fait raison. Il ne faut pas que ce débat soit réduit à se demander si l'art contemporain a sa place dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas d'art contemporain qu'il s'agit, c'est d'art, pour autant qu'on puisse parler d'art, blasphématoire, sacrilège, sataniste, occultiste. Ça, c'est la vérité, effectivement. C'est que Emmanuel Macron et Brigitte ont imposé que les vitraux intacts soient remplacés, et que le travail de réalisation de ces vitraux soit confié à Claire Tabouret, et Claire Tabouret, effectivement, est clairement identifiée comme une occultiste, oui, absolument, tout à fait. Elle est mariée à un musicien, Nathan Tellen, qui lui aussi est un occultiste, un adepte de satanisme. Les deux sont fascinés par les criminels en série et singulièrement par la secte de Charles Manson. Et donc, oui, il faut rappeler cela, qu'en 1969, cette secte a commis différents crimes atroces, dont particulièrement, on retiendra le crime qui s'est fait dans la villa à l'époque de Roman Polanski. Roman Polanski était absent, mais c'est sa compagne de l'époque, Sharon Tate, qui était enceinte de 8 mois et demi, qui a été éventrée, vivante, par les membres de la secte de Charles Manson et principalement éventrée par une certaine Susan Atkins. Susan Atkins qui est l'inspiratrice de la représentation de la Sainte Vierge sur le vitrail prévu pour Notre-Dame de Paris. Donc c'est ça qui est complètement fou. C'est qu'en fait, lorsque les gens iront se recueillir dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, si jamais ces vitraux sont réellement imposés jusqu'au bout et placés dans la cathédrale, eh bien, en lieu et place de la Sainte Vierge, c'est le visage de cette Susan Atkins qui trônera, si je puis dire, qui sera mise en lumière. Et donc ça, c'est complètement fou, complètement scandaleux, sacrilège, inacceptable et c'est incroyable qu'il y ait aussi peu de réactions, qu'il y ait vraiment une chape de plomb sur cette affaire, qu'il y ait une complicité évidente à la fois du clergé conciliaire et à la fois des médias dominants qui font tout pour que rien ne sorte de ce sujet. Vraiment, si on fait des recherches, si on tape sur un moteur de recherche vitraux Notre-Dame de Paris, on va voir que en ce qui concerne les médias dominants, tout le débat se résume effectivement à faire apprécier de l'art contemporain. C'est fou comment on cherche vraiment à cacher au grand public que qui est Claire Tabouret d'abord, hein, parce que les grands médias vont montrer quelques œuvres colorées, je dirais acceptables, disons modernes, pas spécialement belles mais modernes, tout en cachant les œuvres de Claire Tabouret, beaucoup plus sombres, représentant notamment des personnages soit vêtus à la façon de sadomasochistes, hein, avec des cagoules sadomasochistes, soit des enfants ou pleurant, des enfants en larmes, des enfants qui ont l'air d'être martyrisés, soit des femmes ou des enfants aux lèvres ensanglantées. Et donc, on voit bien, si on creuse l'œuvre de Claire Tabouret, qu'il y a vraiment quelque chose de malsain. On retrouve cela aussi chez son mari, Nathan Tellen, qui lui, en tant que musicien, a participé à de différents groupes musicaux qui étaient explicites quant à leur contenu. Hein. L'un des groupes musicaux s'appelait les Murder City Devils, les Diables de la Ville du Meurtre, et donc tous les autres groupes auxquels il a participé sont tout aussi glauques et sordides et diaboliques. Et dans les paroles de ces groupes musicaux auxquels Nathan Tellen a participé, reviennent régulièrement des références à Charles Manson et à d'autres criminels en série avides de références sataniques dans leur meurtre. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. On sait même que leur seconde propriété aux États-Unis à cette Claire Tabouret et ce Nathan Tellen se situe dans le désert de Mojave en Californie, précisément à côté de l'ancien ranch de la secte de Charles Manson, le Barker Ranch. Donc, ce n'est pas anodin. Ils ne se sont pas trouvés là par hasard. On ne s'installe pas dans le désert de Mojave.
Dans la vallée de la mort. Hein.
Et bien sûr. Donc, tout est en référence. L'intérieur de la propriété principale de Claire Tabouret aux États-Unis est illustré au niveau du plafond d'une série de fresques issues d'un jeu de tarot faisant référence à une occultiste élève d'Aleister Crowley, Aleister Crowley qui est le mage sataniste le plus connu du XXe siècle.
Tout à fait.
Donc, il n'y a aucun doute sur qui sont ces gens-là. Qui est Claire Tarbourey, qui est son mari. Et ce n'est donc pas un hasard que le couple Macron confie à ces gens-là, à Claire Tarbourey en particulier, donc, la réalisation de vitraux, là où il n'y avait aucune raison, en plus, de remplacer ces vitraux. Il faut rappeler que la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture se sont prononcés clairement contre ce remplacement de ces vitraux, mais qu'évidemment, Macron n'en a que faire. Macron méprise les gens compétents comme il méprise l'ensemble du peuple français et il impose par le fait du prince ses pires goûts nauséabonds et en l'occurrence satanistes. Et donc quand on observe donc en détail le projet de vitraux proposé par Claire Tarbourey, il faut se rappeler que donc ce projet de vitraux a été déjà exposé au Grand Palais du 10 décembre 2025 oui. au 15 mars 2026, et que donc on peut vraiment regarder attentivement les détails de ces vitraux, et donc ce que certains ont fait, et au point d'y trouver là toutes les inspirations démoniaques des personnages représentés par Claire Tarbourey. Donc elle prétend avoir représenté une Vierge Marie entourée d'apôtres, mais lorsque l'on creuse, lorsque l'on observe attentivement, lorsqu'on examine les détails, on observe que à ce moment-là, la Vierge Marie, c'est Susan Atkins, la meurtrière de la secte de Charles Manson, qu'autour d'elle, il y a Aleister Crowley qui est représenté, il y a Clem Grogan, un autre membre de la secte de Charles Manson, il y a Charles Manson lui-même, il y a un tueur en série démoniaque russe qui s'appelle Mikhail Popkov, et donc vraiment, les références sont multiples, c'est pas un fait isolé, on peut vraiment, on peut pas passer à côté. Et donc c'est incroyable que de la part de l'archevêché de Paris, il n'y ait strictement aucune réaction à ces révélations, et que de la part des médias dominants, il y ait vraiment une chape de plomb, une volonté de faire l'impasse sur ces informations pour que les Français n'en sachent rien. Et donc ça, c'est quelque chose, voilà, il faut que des médias comme des journalistes comme vous permettent de dévoiler cela. Il faut que les catholiques de France se mobilisent parce que ça ne peut pas être mis en place de cette façon-là. C'est inacceptable. On ne peut pas quand même accepter que la cathédrale la plus visitée de France soit ainsi, en réalité, voué à un culte satanique. C'est insupportable, c'est inadmissible, c'est un sacrilège qui ne peut pas se réaliser. Il faut se mobiliser.
On peut ne pas être étonné quand on voit l'habit de clown que les habits sacerdotaux portés par Monseigneur Ulrich et les évêques le jour de la réouverture des cérémonies.
Habillé en Google.
Habillé, oui, c'était Castelbajac lui-même, occultiste,
mais oui.
Qui avait dessiné justement ses habits sacerdotaux ce jour-là. Donc,
et le mobilier urbain, de toute façon, de là toute aussi, façon. Hein, le mobilier urbain qui a été remplacé et qui est totalement inadapté à un culte, mais qui est également empreint de références et satanique et franc-maçonne, c'est une évidence.
C'est ça, exactement. Ce n'est pas seulement sacrilège, ça on a déjà donné, mais c'est consacrer la nouvelle Notre-Dame à Satan. C'est bien en accord avec la promesse de rendre la cathédrale plus belle qu'avant, sûrement en accord parfait avec les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO, nous dit cet auditeur, il a raison. J'ai d'autres questions d'auditeur, mais peut-être que vous vouliez encore intervenir, Lara.
Alors, oui, je voulais intervenir justement sur, déjà, une première chose, peut-être une méditation, c'est-à-dire qu'on est arrivé au temps où, en fait, un artiste s'inspire des pires meurtriers, des monstres, en fait, humains, pour créer. C'est dire à quel point c'est inversé encore une fois. Avant, on cherchait la beauté, l'égérie, c'était la plus belle des femmes. Enfin, c'était ça. Et aujourd'hui, en fait, quand on regarde le mari, justement, de Claire Taboret, qui fait des références à Mikhail Popkov, le loup-garou de Russie, ce type qui a tué pendant des années...
Le pire tueur en série russe,
qui est toujours en vie d'ailleurs, parce que la peine de mort, elle est sous moratoire, parce qu'il a écopé...
Il a une petite centaine de victimes à son actif.
On ne sait toujours pas combien exactement, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement vicieux qui a su, en fait, il était lui-même policier. Hein, c'est-à-dire qu'il supprimait au fur et à mesure, il participait aux recherches et supprimait les traces au fur et à mesure de, ses, de son travail de policier, en fait. Et donc, déjà, il a été mis à l'honneur par le mari de Claire Taboret. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui la représentation des apôtres, on retrouve la trace. C'est-à-dire que le seul russe qui mérite d'être représenté sur un vitrail de cathédrale en France est une abomination humaine. Ça veut dire ça? Et quand on parle de Charles Manson, ben il avait même prophétisé, il avait dit « ils croiront se présenter devant
la mère de Dieu et prieront la fille du diable ».
Ah ben c'est prophétique du coup, elle le rend prophétique, Claire Taboret.
Tout à fait.
Cet auditeur dit « la scène représente bien la Pentecôte, c'est-à-dire la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres entourant la Vierge, c'est-à-dire l'Église, c'est donc bien une descente de l'Esprit de Satan qui singe l'Esprit-Saint ».
Oui, on est dans la singerie permanente, hein. C'est clair. Comme la représentation de Judith Butler à la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques de Paris était une singerie de la dernière scène. Oui, on est en permanence dans ce côté singerie démoniaque, singerie satanique.
Alors, les auditeurs, bonjour, l'Église catholique, ça va aller dans votre sens, Alain et Lara, bonjour, l'Église catholique de France ne défend plus les valeurs de la religion et des catholiques, aucune opposition à l'islam radical, des déviances LGBT, des vitraux de Notre-Dame, elle semble être tombée dans le dogme progressiste. Il n'y a rien à ajouter. Bonsoir à tous. L'Apocalypse promise. Alors, il y a quelqu'un qui revient sur le 23 mai. A fait pchit. Mais il y a plusieurs dates, hein, cher auditeur.
Lisez bien le livre.
Apocalypse 2026, vous avez plusieurs dates. Pas que le 23 mai, attention. On n'en est pas sorti de l'année 2026. Mais le chaos dans les rues samedi soir avait un petit air de pandémonium. J'ai visité, dit cet auditeur, Saint-Quentin l'an dernier avec l'arrêt devant une belle chocolaterie Trogneux sur la place de l'Escurial, puisque la victoire de Philippe II, un 10 août, lui a donné l'idée du palais espagnol en forme de grill. Peut-être que la marche des fiertés se perdra dans le labyrinthe du pavement de la cathédrale. Belle émission. Un auditeur, bonsoir. Les ressemblances sont totales entre deux personnages des vitraux macroniens et le tueur psychopathe Charles Manson et sa créature Susan Atkins qui a poignardé plus de 40 fois l'actrice Sharon Tate, enceinte alors de 8 mois et demi, c'est ce que nous disions. Un des supposés apôtres semble point par point à Charles Manson, même forme de crâne, même chevelure, même barbiche en pointe. La femme du vitrail supposée être la Vierge Marie semble simplement la photo de Susan Atkins qui avait 20 ans à l'époque de son crime. Il n'y a aucune hésitation à avoir sur la nature satanique de ces images qui fait pénétrer la lumière dans la cathédrale au travers d'un filtre satanique. Tout est clair dans ces symboles. C'est la consécration de Satan. On a des auditeurs qui vont dans notre sens.
J'ai un témoignage aussi à vous apporter. À un moment, je me suis posé la question et donc j'ai interrogé le chat GPT sur la question. Et vous savez qu'il ne nie pas le fait que ce sujet existe, mais il dit « c'est complètement faux ». Voilà, donc le chat GPT, lui aussi, il est bien rangé du côté mainstream et dit tout de suite « attention, attention, ces théories complotistes qui disent » et après il détaille d'ailleurs hein, que Charles Manson, Popkov, etc., il est bien au courant, ce chat GPT, mais il dit « non, c'est faux, c'est faux, c'est faux ». Vous voyez, et c'est toujours cette façon en fait de nous mettre dans une espèce de confusion, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a raison. On sait que le blanc est blanc, noir est noir, mais en fait, il n'arrête pas d'inverser pour essayer de tromper le monde et nous traiter presque comme des... voilà, les maboules. On est des maboules, mon
ah,
cher
bah,
Nicolas.
Bien sûr que c'est nous les maboules, on le sait.
Ah, oui.
Hein. Quand il se prend une manchette, une tarte aux nouilles...
C'est l'IA.
C'est
l'IA russe.
C'est
Poutine.
C'est les Russes.
C'est les Russes. C'est les Russes. Et puis après, on nous explique qu'en fait, non, c'est bien une chamaillerie familiale liée à un amour platonique, une relation platonique avec une actrice iranienne.
Franco-iranienne. Donc,
franco-iranienne.
On va le croire.
Non, mais c'est
il ne risque pas de lui faire très mal, à mon avis, le Manu.
C'est platonique, alors il ne cherche pas à lui faire mal, mais bon, il prend des peignes, des beignes de la part de sa chair étendre.
Oui, ça par contre. Là.
D'ailleurs, ce n'est pas des baffes, hein, c'est
non,
aussi
non, non,
bizarre.
Non, ce sont des manches, des manchettes. Très
mais
bien.
Encore, là. Qu'est-ce qu'on peut faire, Monsieur Escada, c'est ça ma question, c'est-à-dire au-delà d'informer, au-delà d'appeler les gens à réfléchir et vraiment parler peut-être autour d'eux, parce que c'est ça. Si on ne parle pas de ce sujet, on a d'ailleurs vu qu'ils cherchaient à installer pour la Pentecôte ces vitraux, ils ont retardé, et c'est une façon de nous habituer en fait au fait que ça va être là. Ça
oui,
va être mis.
Et je pense vraiment que l'installation est prévue pour le mois de décembre.
8 décembre, pour... voilà, ça y est, j'ai la date
voilà,
exacte,
c'est pour,
Alain.
Et de nouveau, le choix,
c'est l'Immaculée Conception.
C'est l'une des fêtes essentielles
oui.
de la religion catholique. Donc c'est particulièrement inacceptable, hein, vraiment. C'est au moment où l'on doit fêter l'Immaculée Conception que, oui, que l'on va nous installer ça. C'est insupportable. C'est insupportable. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Alain? Et vous pouvez
souligner. Je vais souligner.
Et vous pouvez, Alain, vous pouvez regrouper avec le coup de gueule qui est le vôtre par rapport aux nuits blanches du 6 juin.
Oui.
N'hésitez pas. Qu'est-ce que vous demandez aux catholiques? Qu'est-ce que vous demandez aux Français pour nous éviter justement ces sacrilèges?
Alors, bon, j'ai commencé par une boutade. J'ai publié beaucoup de déclarations et d'enregistrements vidéo sur ces vitraux. J'ai été amusé de voir que dans les commentaires sur les réseaux sociaux revient fréquemment l'image d'une catapulte. C'est une image qui est intéressante. C'est une réponse qui peut être envisageable, mais plus sérieusement.
Vous voyez, vous avez une auditrice. Excusez-moi de vous couper, Alain, mais vraiment pour aller nourrir votre propos futur, une auditrice. Peut-on envisager d'empêcher l'extraction des vrais vitraux? Voilà. Les gens se posent des questions. Voilà.
Mais en fait, voilà, j'en reviens effectivement à la nuit blanche. Dans les églises et les chapelles, parce que le parallèle est évidemment frappant, cette nuit blanche qui doit se dérouler du 6 au 7 juin, avec Barbara Budge en directrice artistique placée là par la mairie de Paris, avec la somme rendelette de 42 000 euros pour se faire plaisir à organiser des profanations dans les églises, ça impose une réaction de fermeté. Ça demande que l'on prenne d'abord toutes les mesures, préventives nécessaires. Et moi, je demande vraiment aux catholiques d'abord de submerger l'archevêché de Paris d'appels téléphoniques et de messages. Voilà, il faut que Monseigneur Ulrich sache que ce n'est pas simplement une poignée de catholiques classés extrémistes ou intégristes ou conspirationnistes qui protestent, mais qu'il y a véritablement une levée des catholiques en France contre tout ça. Et donc, vraiment, je pense que c'est très, très important de ne pas manquer de faire sauter le standard téléphonique de l'archevêché de Paris, d'une part, d'également bien appeler les prêtres des églises ou chapelles concernées. Je rappelle, hein, il y a là l'église Saint-Laurent, l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, l'église Saint-Louis-d'Antin, Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux, Saint-Séverin,
C'est
l'église
ça.
Saint-Denis du Saint-Sacrement, l'église Notre-Dame de l'Espérance, la chapelle expiatoire, la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière et la chapelle de l'hôpital Thénon à Paris, qui seront donc livrés à l'imagination démoniaque de Barbara Butch. Eh bien, j'invite vraiment les catholiques à secouer les prêtres de ces chapelles, à leur écrire, à leur donner un appel téléphonique, à leur faire entendre qu'il n'y a pas de raison d'accepter cela. Mais il y a des arguments en plus. Il y a des arguments. Il y a des arguments non seulement de droit canonique, mais il y a des arguments de loi républicaine pour avoir raison en la matière. Je rappelle par exemple que si l'on se met dans la peau de la mairie de Paris, par exemple, eh bien, il y a, eux doivent être particulièrement attachés à la loi de séparation de l'Église et de l'État, certainement, je pense. Or, précisément, la loi de séparation de l'Église et de l'État impose que les Églises soient affectées exclusivement au culte, de façon permanente, intégrale et exclusive. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de possibilité d'affecter momentanément une église, une chapelle à l'organisation d'un spectacle, d'un concert ou d'une exposition. Donc vraiment, j'invite les élus républicains de la mairie de Paris à se référer à leur si chère loi de séparation de l'église et de l'État dans son intégralité et particulièrement dans ce point-là. Et puis, quant à l'archevêque de Paris et aux prêtres des églises concernées, je les invite à relire à la fois le droit canonique, particulièrement l'article 1210, qui est extrêmement précis sur le fait que les églises ne peuvent pas servir à autre chose qu'au culte, et que même en termes de musique, seule la musique liturgique est autorisée dans les églises, dans les lieux de culte. Mais il y a aussi, si l'archevêque de Paris est trop indépendant, s'il s'éloigne du droit canonique, il y a d'autres documents qui sont à sa disposition. Ben, je lui rappellerai à ce moment-là les directives pour l'Église de France du 13 décembre 1988. C'est un texte adopté par le Conseil permanent de l'Épiscopat français, dont le décret d'application affirme bien qu'il ne peut pas y avoir de concert autre que strictement religieux dans les églises. De la même façon que il y a une note de l'archevêché de Paris lui-même, qui date du 29 avril 1988, qui est intitulée « Les concerts dans les églises, présentation commentée de la loi romaine », qui est tout aussi explicite. Il y a encore un décret d'application relevant de la Commission épiscopale de la liturgie en date du 19 mai 1999, qui lui aussi est tout aussi explicite sur le fait que les églises ne peuvent pas être affectées à autre chose qu'au culte et que les seules musiques acceptables sont les musiques liturgiques. On lit notamment dans l'exposé de l'archevêché de Paris de 1988, je le cite, la mise en place d'équipements lourds, estrades praticables, colonnes de sonorisation, dispositifs d'éclairage, demandant des jours d'installation, suffit à transformer une église en salle de spectacle, même pour l'exécution d'œuvres religieuses à des fins même très louables, ce détournement doit être refusé. C'est explicite. Donc, j'invite l'archevêché de Paris à relire ses propres notes et j'invite les prêtres des églises concernées à se référer au droit canonique. Et donc, et si malheureusement nos demandes restent sourdes, s'il n'y a pas de réaction du clergé, eh bien je pense qu'à ce moment-là, il faut que les catholiques se souviennent de leur sacrement de confirmation. Vous savez, quand au moment où vous recevez le sacrement de confirmation, l'évêque vous donne une petite claque sur la joue, eh bien cela fait de vous un soldat du Christ. Mmh. C'est l'expression de l'Église. Et donc, j'invite les catholiques à se souvenir de cela, à être des soldats du Christ. Et ce jour-là, bien à l'avance, le 6 juin, ce samedi, dès l'après-midi, à prendre possession de ces églises, de ces chapelles, à l'intérieur et sur les parvis, et à y réciter le rosaire, à faire barrage, à faire obstacle à de telles profanations, parce que même là où il n'y aura rien, entre guillemets, de blasphématoire, l'utilisation de ces lieux de culte de façon inappropriée relève d'une forme de profanation inacceptable. Donc, catholiques, je vous invite à vous mobiliser et à vous rendre sur place, à vous rendre sur place assez tôt pour occuper les lieux et occuper les parvis, les entrées devant ces lieux.
Merci Alain Escada, je confirme en effet qu'il n'y aura pas que cette musique qui est autorisée par les écrits même de l'Église, mais vous aurez du Michel Fugain, vous aurez du Les Airs de Cacatois, vous aurez de l'Offenbach, vous aurez du Charles Aznavour, vous aurez du jazz, hein, il y aura de tout dans ces églises. Je pense que parmi les églises que vous avez citées ou chapelles, le plus scandaleux se trouve probablement à la chapelle Saint-Louis de l'hôpital Tenon dans le 20e, oui, avec oui. La jungle haletante, alors d'un individu absolument, allez voir chers auditeurs, le personnage sur Wikipédia, il fait peur, un certain Stéphane Blanquet. Alors là, on est surpris. Alors là, c'est absolument atroce, puisqu'il fait des espèces de sculptures où vous avez un petit enfant défiguré dans un cercueil, vous avez un homme androgyne qui montre un sexe de femme, mais qui tient un phallus d'homme dans la main. Enfin, voilà, ce genre d'obscénité dans lequel se complaît ce fameux Stéphane Blanquet, sachant que c'est une chapelle d'un hôpital. Donc, c'est encore peut-être pire, c'est-à-dire que vous avez des malades, des grands malades qui viennent se recueillir dans cette chapelle, des familles, des malades, Saint-Louis de l'hôpital, et qui vont devoir subir les œuvres soi-disant créatrices de ce Stéphane Blanquet, sa jungle haletante. C'est vraiment proprement honteux, scandaleux, et ça c'est dans
c'est
le 20e arrondissement de Paris, voilà, qui est soutenu.
Et ça vaut la peine, je pense, de resituer le choix de la mairie de Paris. Il faut rappeler que donc Anne Hidalgo avait choisi Barbara Butch pour donc être la directrice artistique de ces nuits blanches, et elle avait prononcé une phrase qu'il faut vraiment rappeler à nos auditeurs aujourd'hui. Anne Hidalgo avait dit « Barbara Butch portera haut nos valeurs partout dans la ville. Barbara Butch, c'est un choix qui ressemble à Paris. » Et donc voilà, la volonté de nos politiciens, c'est de faire de Paris Sodome et Gomorre, de faire de Paris le rendez-vous des occultistes, de faire de Paris le rendez-vous des blasphémateurs.
Très bien, merci Alain Escada. Je vous propose, chers auditeurs, parce que je reçois des messages, je savais que vous interviendriez beaucoup dans cette émission de tous côtés. Or, nous avons aussi une autre partie d'émission avec d'autres invités qui arrivent. Donc, un bobino, on répond encore aux questions et puis on donne droit à la gay parade de Saint-Quentin avec les invités tout de suite après ça, s'il vous plaît.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans le livre journal de la résistance française en compagnie, bien sûr, qui m'assiste, Lara Stam et puis Alain Escada. Et nous allons accueillir eh bien, deux nouveaux invités dans quelques instants. Le temps peut-être, chers auditeurs, de donner droit. On a déjà posé pas mal de questions, mais j'en vois arriver aussi. Par un autre canal, donc je vais tout de suite les poser, ou en tout cas donner droit à vos observations, chers auditeurs. L'Église catholique ne s'est-elle pas fourvoyée par la réforme Vatican II et surtout par les affaires de mœurs commises par certains de ses membres issus de la génération d'après-guerre? Cordialement, parmi le verre qui serait dans le fruit, Alain Escada.
Ah, mais c'est évident que le Concile Vatican II explique tout à fait cette dérive, hein, bien sûr. On a transformé l'Église de l'intérieur, on l'a subvertie de l'intérieur, et le résultat est là. Non seulement ils ont vidé les églises, parce qu'il faut bien reconnaître aussi quand même que beaucoup d'églises, lors des offices, sont peu remplies, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Et donc ça, c'est le résultat de leur révolution liturgique. Mais ensuite, effectivement, ce Concile Vatican II a permis une révolution de la doctrine et un libre cours à toutes les tentations LGBTistes au sein de l'Église conciliaire. On voit qu'il y a fréquemment des prélats, des prêtres qui ne manquent pas d'avoir des sympathies pour le lobby LGBT, comme ils ont des sympathies pour les artistes dits contemporains. Et donc, il y a toujours un jésuite, un dominicain de cette église dérivée, moderniste, conciliaire, pour justifier les pires horreurs et pour prétendre qu'il ne faut pas s'inquiéter, que non, il n'y a pas de blasphème, que non, il n'y a pas de scandale. Et donc, voilà, il faut que les catholiques du rang, fidèles à la doctrine de l'Église catholique de toujours, eux, se manifestent et refusent cette révolution.
Bonjour, tout ceci n'est-il pas l'esprit de destruction de la Révolution française qui arrive à son stade final? Eh oui, aussi.
C'est lié, bien sûr. Révolution française et révolution dans l'Église vont de pair. Hein. On sait bien que l'une et l'autre sont l'œuvre notamment de la franc-maçonnerie.
C'est pour vous, Lara. ChatGPT, comme tous les soi-disant IA, sont simplement des outils de surveillance et surtout de normalisation de l'opinion dominante orientée par les algorithmes et les filtres. Ça, c'est lorsque vous avez fait référence à l'IA. Ils repèrent statistiquement une opinion qui peut passer la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire être acceptée comme opinion dominante. Cela joue comme jouait la puissance de l'écrit, vu comme comme le vu à la télé.
Disons, mon expérience avec ChatGPT là-dessus a été une petite engueulade. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit que je ne demandais pas d'aller chercher sur Internet les médias mainstream, mais de construire le fait que c'est un récit tel que je le vois. Et donc, il s'est soumis à la fin. Il a été obligé. Donc, c'est possible aussi. Ce n'est qu'un outil, en fait, en réalité, mais c'est un outil, si on ne sait pas s'en servir, on peut très vite se faire, sanctionner par les injonctions. Mais ce que je voulais aussi rajouter, cher Nicolas,
rapidement,
lorsque Fabrice Sorlin a offert à Vladimir Poutine cette statue de Notre-Dame de Fatima, on lui a posé la question, est-ce que c'était parce que tu souhaites que la Russie soit consacrée à la Vierge?
Au cœur immaculé de la Vierge.
Et il a dit, mais d'abord, il faudrait que les catholiques y soient consacrés avant de demander aux
se
Russes
reconsacrer.
De se reconsacrer. Enfin, oui. Voilà, c'est assez parlant et je pense qu'on est effectivement à ce moment-là de l'histoire où les catholiques ont perdu la ferveur nécessaire pour faire face à cette.
Allez,
cette
on
tension.
Y va. On va plus. Vous savez qu'on n'a plus qu'une heure et demie dans ces émissions. Avant, on avait 3 heures. Alors, on prenait notre temps. Maintenant, avec 1 heure et demie, comment voulez-vous que je m'en sorte, moi? Sur les questions des auditeurs, les invités.
Si,
les...
si vous m'interrompez, donc après, je perds mon fil.
Ah, ne faut-il pas demander, nous demande cet auditeur, au Vatican de frapper, d'interdire les églises portant de genre de symboles antichristiques? Les prêtres français qui se prêtent à ces manifestations ne devraient-ils pas être démis de leurs fonctions? Bon, moi, je suis assez d'accord avec les propos radicaux de cet auditeur, mais bon.
Mais déjà, faut faire
une excommunication pour Alain Escada, très bien. Alors, une auditrice, encore, qui va en renfort de Lara. Bonsoir à tous, je suis d'accord avec Lara, mais comment faire reconnaître le miracle? Quelle procédure? Donc, je suppose que c'est le miracle de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Je viens d'entendre que l'église Saint-Séverin est touchée par cette nuit blanche où aller prier à Paris dans une maison de Dieu non profanée. Où aller prier dans une
Au
maison
contraire,
de Dieu
faut
non
y
profanée.
Aller, comme dit Alain.
Il faut aller dans ces églises et empêcher que ces blasphèmes, ces profanations se déroulent.
Tout à fait. Nous aurons Michel Dumas et son quatrain tout à l'heure, à la toute
Est-ce
fin de cette émission.
Est-ce que Sacré-Cœur est concerné ou pas?
Non.
Non, heureusement.
À cette fois-ci.
Ouais.
Bien, pourtant, c'est 24 heures sur 24.
Oui,
la prière. Mais pas pour Nuit Blanche, justement. Très bien, allez, on continue. Et je reçois, nous recevons avec Lara, dans cette seconde partie d'émission de ce livre-journal de la Résistance française sur Radio Courtoisie. Je l'avais déjà reçu vendredi dernier dans le Florilège des Arts. C'est Florent Delaporte. Bonjour, mon cher Florent.
Bonjour Monsieur Stocker et merci de l'invitation. Bonjour à tous. Monsieur Escada également.
Voilà. Et aussi, eh bien, la représentante nationale des parents vigilants, Séverine Dumini. Bonsoir Séverine.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Madame Dumini.
Bonsoir Florent.
Voilà, donc on est très heureux de vous retrouver l'un comme l'autre, avec Alain Escada qui va rester avec nous. Et nous allons, ce que je propose, c'est de vous laisser à l'un et à l'autre déjà la parole pour un petit peu planter le décor, et puis on pourra peut-être échanger ensemble. Peut-être Florent, nous rappeler, puisque vous êtes à l'origine, entre autres, de la pétition hostile, et on peut le comprendre, à cette gay pride qui se produit juste devant dans le square de la basilique de Saint-Quentin. Nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, pour ceux qui n'auraient pas suivi le Florilège des Arts vendredi matin dernier. Et puis après, eh bien, aussi donner la parole, bien sûr, aussi à Séverine Dumini. Florent Delaporte.
Écoutez, merci. Le 6 juin, donc exactement la même date que celle des Nuits Blanches, à croire que cette date est.
C'est
bien le numéro, voilà.
Oui.
Il va se dérouler donc, à Saint-Quentin, dans le square Churchill. Donc, c'est le square qui est collé à la basilique, qui n'appartient pas à l'église, mais à la mairie. Des stands LGBT. Un char LGBT et surtout un spectacle de drag queen. Donc quand on a su ça, on est un peu monté au créneau, on a contacté directement la mairie pour avoir un peu des explications là-dessus. On nous a un peu baladé d'adjoint en adjoint, on va dire, et puis aussi à la préfecture. Donc voilà, en fait, ça n'a rien donné. En gros, ils essayaient de gagner du temps. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé de l'aide. On a demandé de l'aide, donc j'ai reçu de l'aide de Daily's, que M. Escada connaît bien. Et également la coordinatrice du collectif La Voix des Catholiques, qui m'a aidé à mettre sur pied un courrier assez salé, on va dire, que nous avons envoyé donc à Madame la maire, Frédéric Macaré, au sous-préfet également et au préfet. Donc après, on a décidé de lancer une pétition. Alors, loin de moi l'idée qu'une pétition puisse changer la donne, mais dans une petite ville, entre guillemets, comme la nôtre, on s'est dit que ça pouvait donner de la visibilité, et ça a réussi à donner de la visibilité. puisque les partis politiques s'en sont saisis, dont Reconquête et M. Romain Dumas, que je remercie pour son travail et sa détermination. Il est l'un des seuls à vraiment mener le combat de front avec moi. Et il est aussi un fervent catholique, donc voilà. Il y a eu aussi Mme Géronimi qui a pris un petit peu parti, mais moins radicalement, on va dire, mais qui a interpellé Mme le maire en posant des questions intéressantes sur l'association en question. Donc suite à ça, la réaction de l'association ne s'est pas fait attendre, avec un communiqué de presse assez lunaire que vous avez pu lire, je pense.
Oui, qui commence par « Burke
». Ah, c'est ça, et qui finit par Michel-Ange, le rapport entre Michel-Ange et les fesses d'une drag queen.
C'est
drag queen.
Ça, voilà, c'est-à-dire que c'est plein de fesses de postérieures oui, au Vatican même, bien sûr.
Exactement, donc voilà. Après, on est allé tracter sur les marchés et puis sur les parkings pour alerter un peu les Saint-Quentinois sur ce qui se passait. Et on a été assez surpris, et de toute façon, on s'en doutait un petit peu, mais pas autant. Que les gens en fait ne sont au courant de rien. Même à la sortie des messes, les paroissiens ne sont au courant de rien. Donc un peu surpris. Et donc Madame Macaré a apparemment reçu pas mal de courriers lui demandant un peu des explications. Suite à ça, j'ai eu un appel des renseignements territoriaux de l'Aisne. Donc, il s'inquiétait un peu, apparemment, de la tournure que ça prenait, puisque
RG.
La petite gagnait. Voilà, c'est ça. Il gagnait un peu la mairie, apparemment. Donc, ils m'ont demandé un rendez-vous en sous-préfecture. J'ai été reçu par le secrétaire du sous-préfet, et puis également la police nationale, et puis le chef adjoint des renseignements. Donc, ça, qui me demandait ce que je prévoyais le 6. Donc, voilà, donc je leur ai dit qu'ils verraient à ce moment-là. Que nous, on essayait de déplacer l'événement, c'est tout ce qu'on demande de toute façon, puisqu'il y a un parc en fait qui a. J'ai fait une petite vidéo ce week-end qui montre bien la problématique en fait. Le square, quand on se tourne à 150 mètres, on voit le plus grand parc quasiment qu'on ait à Saint-Quentin, qui se trouve donc, je vous dis, à 150 mètres à côté. Donc on ne peut pas me dire qu'on ne peut pas le déplacer. Moi, je l'ai fait à pied il y a une minute en plus.
Bien sûr.
Donc voilà, je ne demande pas ce qui ne passe pas dans le centre-ville. Ça, après, c'est aux Saint-Quentinois de faire en sorte de remonter s'il y a un mécontentement. Ce que je les appelle à faire, puisque après, sur la voie publique, à la vue d'enfants, un spectacle, enfin, un show de drag queen sur un char, je ne sais pas si c'est le meilleur emplacement. Mais bon, ça, Mme Macaré, elle verra par elle-même. Et puis du coup, après, j'ai eu, grâce à vous, mon passage chez Radio Courtoisie, qui a débloqué quand même pas mal de choses, on va dire.
Ah, j'ai vu qu'on avait eu les honneurs du courrier Picard. Vous m'avez envoyé ce magnifique article.
Entre autres, oui, on a eu le courrier Picard, donc le journaliste m'a interviewé pendant 20 minutes. Alors, c'est déjà bien, on va dire, puisqu'il a fait les deux parties. Il a fait moi et puis le monsieur de l'association, le gérant. Puisqu'après, on a aussi vu que France 3 Région fait un article, excusez-moi du terme, mais dégueulasse.
Oui.
Puisqu'en fait, ils ne nous contactent même pas et c'est complètement à charge.
C'est ça.
Enfin, voilà.
Le service public, avec l'argent de nos impôts, comme d'habitude. Voilà.
Très content, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai eu la surprise d'avoir un appel de RTL.
Ah.
RTL Région, donc un monsieur qui venait de Lille et qui voulait me voir en personne. Donc, j'ai pas pu malheureusement le voir en personne puisque je travaillais.
Oui.
Mais il m'a enregistré et puis donc demain matin, ça sera disponible dans la matinale d'RTL Région.
Très bien.
Donc voilà, ça prend un petit peu d'ampleur. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à ce que Madame Macaré s'exprime, surtout parce que ça fait un mois en fait qu'elle s'est pas exprimée et qu'elle se cache. Je sais pas. Voilà. C'est problématique puisque on attend il y a qu'elle qui peut le déplacer.
Oui, Madame le maire de Saint-Quentin, mais oui.
Moi, c'est ça, dite de droite. C'est, voilà. Donc voilà où on en est pour l'instant. Comme d'habitude, hein, c'est l'extrême droite, c'est le retour des bottes. C'est, voilà, alors que je ne suis pas encarté politiquement, je suis quelqu'un de simple et voilà, je suis juste un militant catholique fier et un Français fier, je vous l'avais dit la dernière fois. Donc voilà, après, on a dénoncé aussi l'association en question et ça permettra de passer le relais à Mme Dumini pour les interventions scolaires en.
Oui.
Les lycées du collège de Saint-Quentin et ailleurs. Et donc, c'est pareil, cette association-là et les différents médias qui ont pu relayer les différents journaux s'en sont pris aussi, bien évidemment, à part en vigilant, du fait du relais notamment des infos qu'on peut trouver sur leur site, du style que les fascistes brûlent dans les flammes de leur haine. Vous voyez, donc ces gens-là interviennent en milieu scolaire et renvoient des gens, enfin des jeunes sur leur site. Et puis voilà, c'est sur quoi ils tombent quand ils arrivent. Ou alors, la police nous tue. Alors ça, c'est exceptionnel. Bon, bref, c'est sympa pour les forces de police qui vont encadrer la manifestation.
Ah oui.
Donc voilà, et puis après des petits liens peut-être avec la CPAM sur un jeu qui est soi-disant financé, donc ça on va essayer de creuser un peu plus pour avoir un peu le détail. Donc voilà, Madame Macaire, on attend votre réponse, puisque là l'événement est samedi, vous pouvez encore le déplacer, il n'y a rien qui empêche le déplacement, à part de la volonté politique. Et comme je vous avais dit vendredi, la devise de Madame le maire, c'est action-réaction. Alors, écoutez, Madame le maire, on attend de voir. On vous attend.
Florent, rappelez, s'il vous plaît, après, Lara veut vous poser une question. Rappelez, s'il vous plaît, c'est le plus important. Comment peut-on signer la pétition pour s'opposer à Saint-Quentin, à cette gay pride devant la basilique?
Alors, il y a sur le Facebook de Monsieur Romain Dumont.
Alors, Romain, ouais, bon, et Dumont, c'est D-U-M...
D-U-M-A-N-D.
D-U-M-A-N-D, très bien.
Voilà, c'est ça. Elle est dessus, alors après, là, elle est à 400, un peu, plus de 400 signatures. Ah, donc, bon. En vérité, elle a déjà fait le travail. Donc, après, c'est juste, en fait, si les gens, surtout, ont des contacts dans des médias, entre guillemets, je dirais, de droite, puisque là, la gauche nous tombe un peu dessus... Le problème dans notre camp, c'est que les gens se serrent pas les coudes. Si jamais les gens ont des contacts pour faire des articles qui traitent vraiment du sujet de fond, puisque l'association ne répond jamais au sujet de fond, c'est toujours les méchants homophobes et voilà, c'est aujourd'hui c'est comme ça. Mais voilà, qui traiterait vraiment de la problématique qu'on met en avant et des arguments qu'on a, et en attendant la réponse derrière de ces
oui,
choses-là. Enfin de cette...
Mais moi, vraiment, j'insiste. Sinon, c'est quelle est la plateforme pour la signature de la pétition?
C'est
change.org.
Change.org, oui, après, si vous voulez aller là-dessus.
Non, à la marche des fiertés aux abords
par Mediapresse Info. Mediapresse Info vient de publier le lien et la pétition. Donc le texte de la pétition et le lien sont disponibles pour les gens qui taperaient Mediapresse Info.
C'est important, hein, tout ça, je vous le dis, puisque je suis allé regarder la contre-pétition chrétiens qui veulent une gay pride et qui veulent des drag queens dans l'église, dans la basilique, et ils sont une trentaine. Donc c'est très bien, il faut que vous soyez le plus nombreux possible. Hein, à signer cette pétition.
Je vous revendique avant de donner la parole à Mme Zumini.
Oui.
Comme a dit M. Escada, puisque là, malheureusement, les catholiques aujourd'hui, il est temps de se réveiller, puisque la stratégie qui consistait à ne rien faire et à attendre que ça passe ne porte pas ses fruits, on le voit au quotidien. Donc j'appelle vraiment tous les catholiques à se réveiller et à s'unir. Puisque comme l'a rappelé M. Escada, voilà, vous l'avez évoqué en première partie, la gay pride de Compiègne avec Sainte Jeanne d'Arc, avec un drapeau transsexuel. Il y a aussi eu l'attaque du secret. Il y a eu aussi l'attaque sur le secret de la confession, là, des prêtres, qui a été abordée il n'y a pas longtemps à l'Assemblée, là.
Oui, tout à fait, absolument. Mais ça, c'est au prétexte de Bétaram, hein, de ce qui s'est passé à Bétaram. Le gouvernement veut revenir, en effet, sur le secret de la confession. Oui, tout à fait.
Donc, c'est la porte ouverte à tout. Et puis surtout, le combat de M. Escada là, sur les églises de Paris. Moi, je ne pourrais pas y rendre, puisque j'ai le combat ici. Donc, on va voir ce qu'on va faire après. On ne sait jamais, les gardes à vue sont utilisables assez facilement aujourd'hui, donc on verra. On verra bien où on se trouvera ce week-end, mais je vous soutiendrai de là où je serai, en tout cas.
Bravo, Florent Delaporte.
On se soutiendra mutuellement.
Bravo, merci, Alain Escada. Lara, une question à Florent, et ensuite Séverine Dumini.
Oui, j'ai une question. Pourquoi vous avez axé uniquement sur la mairie, sachant que le préfet, il a quand même la possibilité d'annuler une manifestation avec le trouble à l'ordre public possible? On a vu des petites manifestations de rien du tout annulées, comme la place d'armes qui déposait des fleurs. Nous avons aujourd'hui, par exemple, un dieudonné qui se déplace de départ département à département, à peine franchissant la ligne, le département émet un arrêté interdisant tout spectacle, etc. Pourquoi ne pas utiliser cet aspect-là ? C'est-à-dire,
le secrétaire du sous-préfet.
Faut leur dire, il y aura trouble à l'ordre public. C'est tout.
Figurez-vous que, ce qui a été étonnant, c'est la première chose que m'a dit le monsieur de la police nationale. Donc, je ne sais pas s'il me poussait dans ce sens-là ou pas. C'est intéressant. Il m'a dit le seul moyen, entre guillemets, de l'annuler, c'est le trouble à l'ordre public.
Oui.
Donc, j'ai écouté. Bon, si vous voulez me pousser là-dedans, on verra, mais je mets toutes les options de notre côté, on verra, il n'y a rien qui est mis de côté. Après, ce qu'il y a, c'est que pour revenir à la sous-préfecture, moi, ils m'ont bien expliqué qu'en fait, ils arrivaient en fin de ligne sur le processus de manifestation. Eux, ils organisent, c'est que la sécurité, vous savez, les bars et les routes, etc. Et que le lieu en question était à la mairie et qu'il y avait encore du temps pour faire en sorte de déplacer. Quoi. Donc voilà, après, là, j'ai beaucoup de messages de personnes savoir ce qu'on pourrait faire samedi. Honnêtement, on va attendre la fin de semaine, voir un peu ce qu'il en est, puisque là, ça commence enfin à bouger et la pression se resserre un peu. Donc le passage ce soir ne fera que pousser dans ce sens-là. Après, par contre, si jamais il s'avérait que ça soit maintenu, écoutez, on verra samedi. On a plusieurs options sur la table. On choisira la meilleure. Et puis voilà. Après, c'est ce que j'ai expliqué à ce monsieur ce monsieur qui m'a expliqué tous les 5 minutes qu'il était républicain. Moi, je leur dis, je combats pour le Christ et mon pays. Donc, vous voyez, même si on n'était que 12, le Christ et ses apôtres étaient que 12. Et pour autant, voilà quoi. Donc, après, il faut des gens déterminés. Et je pense qu'on l'est. Donc voilà, on verra ce qui se passera samedi.
Très bien, Lara vient de signer la pétition. Voilà, c'est très bien.
Facile.
On va faire signer tout le monde. Alain Escada, je sais pas si vous avez signé la pétition.
Bien sûr, j'ai signé tout à l'heure, juste avant l'émission.
C'est très bien. Parfait. Bon, il y a beaucoup d'auditeurs, mais c'est pas grave. Là, d'abord, le plus important, c'est d'écouter maintenant, d'entendre Séverine Dumini, donc, qui est la responsable nationale de parents vigilants. Donc, expliquez-nous un petit peu votre engagement dans ce combat, ma chère Séverine.
Oui, bonsoir à tous. Alors, peut-être pour les auditeurs, je rappelle ce que c'est que les parents vigilants. Un collectif de parents qui a été créé en 2022 par Éric Zemmour et Sarah Knafo. L'objectif de notre réseau, c'est de défendre une école qui soit une école de qualité, basée sur l'instruction, sur la neutralité des enseignements. Évidemment, on déplore la baisse du niveau scolaire. On aimerait que l'école se concentre sur la transmission des savoirs fondamentaux. Et nous luttons contre toutes les propagandes qui peuvent apparaître dans les classes, notamment diffusées par certaines associations, donc on va en parler là, ou bien parfois aussi à l'initiative des professeurs. Donc on est un collectif d'environ 75 000 parents sur toute la France, et donc on reçoit beaucoup de témoignages de parents qui nous transmettent les contenus de certains cours, qui nous parlent des interventions d'associations et de ce qui est transmis. Et donc on essaie bien d'accompagner ces parents, d'alerter et de faire bouger un petit peu les choses. Donc on a des réussites parfois qui sont assez encourageantes, on va dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'école. Donc moi, concernant cette manifestation, cette marche des fiertés à Saint-Quentin, j'ai été informée de l'événement par Romain Dumont, donc le délégué départemental Reconquête de l'Aisne, avec qui j'avais déjà collaboré il y a 2 ans au sujet de l'association Fiers et Cuir, parce que l'association était intervenue dans un établissement que des parents s'étaient signalés auprès de notre réseau était mécontent et ne comprenait pas comment une association pouvait ainsi intervenir dans un milieu scolaire sur des sujets qui sont quand même sensibles, délicats et sur un public aussi jeune. Donc on avait à l'époque fait un communiqué pour dénoncer l'intervention. Il faut savoir qu'à l'époque, Fiers et Cuir n'avait pas d'agrément officiel de l'Éducation nationale pour intervenir. Lorsque nous sommes manifestés. Et il faut savoir également que suite à cette polémique, cette publication. Notre réseau a été soutenu par une association LGBT, mais une autre association qui dénonçait eh bien, le fait qu'il puisse y avoir du militantisme dans les établissements scolaires. Donc ça, c'est un signal très fort. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs autres, hein. Il y a le collectif Eros qui est derrière Johan Power. Il y a aussi, par exemple, Lettres Trans, qui est un collectif de personnes transsexuées, mais qui sont contre les interventions dans les milieux scolaires, qui sont contre les transitions de genre chez les mineurs, et qui nous ont accompagnés sur une affaire il y a quelque temps. Donc, en fait, on voit bien qu'au-delà de la question LGBT, il n'y a pas un consensus et sur le positionnement de certaines associations, malheureusement, qu'on entend le plus, qui sont militantes. Eh bien, en fait, derrière, il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent être homosexuelles et qui sont en désaccord avec ce qu'elles peuvent porter, avec ce qu'elles représentent. Et c'est dommage qu'on ne les entende pas plus souvent. Donc voilà, ce soir en fait, je suis là en soutien eh bien à Monsieur Delaporte pour son action parce que je suis aussi catholique, donc je comprends parfaitement et je trouve scandaleux, enfin anormal que l'on doive se battre pour faire respecter le caractère sacré d'un lieu. Je pense que ces associations qui se disent ouvertes sur la tolérance, mais je ne comprends pas qu'elles ne peuvent pas entendre que des paroissiens, que des croyants puissent être dérangés, que là, près d'un lieu d'un culte, eh bien, on demande simplement que ce soit déplacé, on ne demande pas l'annulation, on demande juste que, eh bien, ils puissent faire leur manifestation à côté, un peu plus loin. Voilà.
Bien, merci Séverine Dumini. Alors, il ne reste que très peu de temps, donc une intervention, une réaction à Alain Escada, mais 2 minutes, pas plus, s'il vous plaît.
C'est la démonstration que leur prétendu vivre ensemble est une imposture, qu'en fait, à la moindre occasion, la recherche est de confronter les groupes humains et de provoquer les catholiques. Et il faut vraiment être déterminé. J'admire la volonté sereine de Florent et je l'encourage vraiment à être un catholique fort. La vertu de force est ce qui nous manque le plus en ce 21e siècle.
Merci beaucoup.
Lara.
Moi, je voulais juste rapidement intervenir sur le fait que, mais en fait, pourquoi on cherche l'approbation par d'autres associations LGBT? C'est même pas leur problème. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il suffit de dire que non, vous ne devez pas manifester devant une église en plein jour, en plus à proximité de là où jouent des enfants, etc. Faire vos espèces de manifestations ou de parades, de fierté, de tout ce que vous voulez. Faites-le ailleurs ou ne le faites pas chez moi, c'est tout. Et il n'y a rien de beaucoup, enfin, c'est déjà en soi suffisamment fort comme message. Et malheureusement, on se retrouve aujourd'hui presque à chercher à se faire aider par d'autres manifestations LGBT. Mais c'est même pas, enfin, c'est même pas leur problème en quelque sorte. C'est qu'ils aillent ailleurs, c'est tout.
Ah, vous mettez les pieds dans le plat, il ne reste pas beaucoup de temps pour
désolé,
ce sujet
mais
passionnant,
bon.
Mais je laisse Séverine répondre par rapport à ça, Séverine
Dumini. Je comprends la démarche, mais c'était juste, voilà.
Oui, alors, non, mais alors, concernant, alors après, sur la basilique, hein, les associations qui sont intervenues, c'était sur les questions à l'école. On va dire que c'est pas tellement l'approbation, c'est simplement qu'on entend beaucoup un discours qui semble être le discours unique, qui est de dire que eh bien, ces associations, en gros, elles ont le droit de tout faire au nom de l'inclusion, au nom de la tolérance, etc. Et donc ça, c'est insupportable, puisque à chaque fois que vous voulez émettre une critique, que ce soit sur le fait qu'elles puissent intervenir dans des établissements scolaires, alors que ce sont des associations militantes qui sont pas neutres, ou bien là, ici, sur l'exemple, lorsque vous demandez simplement un respect d'un lieu de culte pour les paroissiens, eh bien, tout de suite, les personnes...
Homophobes, voilà.
Voilà, c'est ça, homophobes, transphobes, etc., des accusations. Et donc, le fait quand même d'avoir une autre parole de personnes de cette communauté qui vont dire bah non, il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas de transphobie, mais on partage bah, le point de vue alors que nous-mêmes, nous sommes considérés comme des LGBT. Je pense que ça peut permettre quand même d'éclairer et de porter en faux, finalement, eh bien, ces arguments qui consistent à tout de suite eh bien, qualifier les opposants, bah, d'ailleurs, c'est pour les réduire au silence, d'homophobes ou de transphobes. Donc, je pense que ça peut aider finalement à décrédibiliser l'argumentaire eh bien, de ces militants.
Alors, en effet, il y a des auditeurs ou auditrices qui n'y vont pas, eux, par quatre chemins. Et elle dit « Quand j'ai vu le pape François bénir un mariage homosexuel, j'ai pensé à devenir orthodoxe dans le centre où j'ai étudié le russe. » Bon, ben voilà. Après, chacun réagit comme il est aussi, hein, je dirais. Il y a ça. Bonsoir et merci pour cette émission. Ne pourrait-on pas écrire une lettre ouverte via un journal catholique, une revue comme la Nef, un parti comme celui de Jean-Frédéric Poisson? Lettre ouverte à nos évêques, au cardinal Aveline. Bon, on peut écrire, Alain Escada, de toute façon, on est d'accord.
On peut toujours écrire, mais à un moment, il faut passer aux actes.
Ah, ben c'est ça, et ça, et je pense Merci. Que c'est ce à quoi s'apprête Florent Delaporte. L'Alexandrin, le 4-1, pardon, de Michel Dumas, blasphème, profanation, rien n'arrête, escalade vers pic de Lucifer. Que le de malade, ou pis de possédé, jetant comme salade, hostie, croix, vase, statue, au diable en régalade. Merci mon cher Michel Dumas, très en forme ce soir. Il reste pour conclure, quelques secondes Florent.
Bon. Je voudrais remercier vraiment tous ceux qui se sont mobilisés pour signer. Je voudrais vous remercier vous aussi de m'avoir donné une tribune pour m'exprimer, parce que c'est pas simple sur des petites villes. Monsieur Escada, d'avoir relayé et puis de combattre comme il faut le faire. Et puis aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, Élise, et puis la coordinatrice du collectif La Voix des Catholiques. Et puis aussi Pierre, qui est un camarade à moi de Soissons, de Reims, qui a une association qui m'a aidé aussi à relayer et qui organise des fêtes populaires, pèlerinage, et puis là, les feux de la Saint-Jean au mois de juin, donc n'hésitez pas si vous voulez y aller. Voilà, c'est par des petites associations comme ça, je pense qu'on arrivera à refaire une communauté, et voilà, je pense que c'est important.
Merci, ben, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Alain Escada, 10 secondes.
Tout simplement, bougez-vous, sortez de chez vous, agissez, soyez sur le terrain, battez-vous.
Eh ben, merci Alain Escada, merci Séverine Dumini.
Merci
Florent Delaporte, merci Lara. Je vous souhaite à tous, chers auditeurs de Radio Courtoise, une excellente soirée et je vous dis à samedi pour le Libre Journal de Géopolitique Profonde. Bonne soirée à tous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Résistance française dirigé par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 3 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.